Santé. Bonjour, comment ça va? Bien, j'espère. Dernière émission avant Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Je pose la question parce que hier, dans l'ascenseur, j'ai pu assister à une conversation que j'ai trouvée plutôt amusante. Une dame qui demande à une autre, est-ce que tu es prête pour Noël? Et l'autre qui dit, ouais, je pense, je suis prête pour dormir. Alors, c'est ce que je vous souhaite, des dodos, des beaux dodos, du repos, puis bien sûr, du temps avec ceux que vous aimez. Mais avant, c'est la dernière émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. Aujourd'hui, à l'émission, Stéphanie Béchard sera avec nous en studio. Elle est infirmière praticienne spécialisée en cardiologie au CHUM et elle nous présente l'application @cœur, donc @cœur, qui a remporté en novembre le Grand Prix du Coopératon 2016. C'est un prix, si vous ne connaissez pas, moi je ne savais pas, qui vise à promouvoir l'innovation technologique dans le domaine de la santé. Aussi, on vous parle d'un projet qui a suscité notre imaginaire et notre intérêt ici au Canal M, l'ascension d'un volcan en Équateur, le Chimborazo, et ce, avec des jeunes qui vivent soit avec l'autisme, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Ça va se passer en juin 2017 au profit d'une fondation, le Parrainage, qui est du côté de la Mauricie, centre du Québec. On en parlera avec Sylvain Hainaut de Latuc et Maude Bourgeois, tous deux impliqués dans cette aventure. Ils pourront nous en parler davantage. Aussi, je discute avec le journaliste bien connu Pierre Craig, qui, lui, est le nouveau porte-parole de l'organisme Revivre. Il a annoncé, Pierre Craig, à la fin du mois de novembre, qu'il vivait avec un trouble de panique. Il nous en parle avec beaucoup de cœur et de générosité. Et finalement, l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie, oui, pour toute la famille, c'est important. C'est la quête du docteur Jean-Luc Bigras. Il est cardiologue pédiatrique du côté du CHU Sainte-Justine et nous parle du centre Circuit, dont il est le co-directeur. Mais tout juste avant cette revue de presse, la dernière de 2016, revue de presse de la semaine en matière de santé, avec le recherchiste de cette émission, Martin Forgue. Martin Fort, bonjour.
Bonjour, Marianne. Comment vas-tu?
Très bien. Dernière de 2016.
Ben oui.
Et on débute sur une note un petit peu houleuse parce que des pépins, du sable dans l'agrenage en matière de négociations au sujet des transferts en santé du côté des fédérales.
Oui, ben, des négociations qui battaient son plein. Et lundi, le ministre des Finances, Bill Morneau, rencontrait ses homologues des provinces et les ministres de la Santé pour continuer de négocier les transferts fédéraux en santé. Alors, il faut savoir d'abord que les conservateurs avaient, à l'époque, promis de réduire les transferts de 6 à 3 % à compter de 2017. Et, évidemment, suite à l'élection des libéraux l'an dernier, M. Morneau suggérait de réduire de faire passer de 6 à 3,5 % par année. Par contre, à cela s'ajoutait une enveloppe de 11,5 milliards sur 10 ans destinée aux soins à domicile et en santé mentale, donc des investissements qui sont extrêmement ciblés. On rappelle évidemment que la santé au Canada est de compétence de juridiction provinciale.
Ouais.
Donc, on dénonce du côté des provinces une ingérence fédérale dans la façon de dépenser l'argent. Et donc, on a refusé en bloc l'offre du gouvernement fédéral qui, par la suite, l'a retiré complètement de la table. Par contre, on insiste pour dire que ce n'est que le début des négociations.
Ouais,
donc, tout ça se poursuivra. Ce n'est pas terminé, mais ça reste quand même un dossier à surveiller parce qu'évidemment, bon, les dépenses de santé sont une part très importante des portefeuilles des différentes provinces et l'apport fédéral, jusqu'à preuve du contraire, reste quand même crucial pour arriver à pouvoir financer le système de santé.
Oui, ça préoccupe bien sûr le financement en matière de santé, la population, toutes les populations au Canada. Maintenant, une étude de l'Institut de la statistique du Québec afin de mesurer la santé avec différents indicateurs.
Oui, donc une étude qui est parue le 20 décembre, donc hier. C'est tout frais, tout chaud, donc de l'Institut de la statistique du Québec, une étude basée sur les données menées de ce qu'on appelle l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. C'est une, on parle d'un travail qui s'échelonne sur 7 ans, donc énormément de données. Et on relève 25 indicateurs qui décrivent l'état de santé physique et mentale. Je vous les nomme, je ne les nommerai pas tous, évidemment, mais juste avant, quelques faits saillants. Donc, on dit que l'usage de la cigarette est en baisse chez les Québécois, notamment. Donc, on parle de 19 % en 2007-2008 à 15 % en 2013-2014. Et là, on parle des fumeurs âgés de 12 ans et plus. Évidemment, on espère qu'en bas de 12 ans, il y en ait pas trop. Sinon, la proportion des Québécois actifs ou moyennement actifs passe de 59 à 64 % au cours de la même période. Donc, les gens sont de plus en plus, ça donne de plus en plus à de l'activité physique. Par contre, et c'est très ironique, l'obésité fait un bond de 2 %, 15 % en 2007-2008, 17 % en 2013-2014. Donc, évidemment, souvent on peut constater que les données peuvent être contradictoires dans ce type d'études-là. Sinon, bon, on parle de 25 indicateurs, je ne vous les nommerai pas tous, évidemment. Par contre, ils sont regroupés en différentes catégories, l'état de santé générale et de santé mentale, donc on parle d'une perception ici surtout, l'utilisation des services et des soins de santé, à usage de l'alcool et du tabac, problèmes de santé et limitations, et comportement et habitudes de vie. Donc, évidemment, des catégories qui ne causent pas de surprise quand on suit moindrement les dossiers relatifs à la santé, mais quand même une étude qui vient finalement quantifier une situation, la situation de la santé générale des Québécois. Oui.
Une étude de plusieurs pages, si je ne me trompe pas, Martin. Oui. Donc, si les auditeurs nous entendent en ce moment, ils ont envie de la consulter, ils peuvent aller sur le site de l'Institut.
Sur le site de l'Institut de la statistique. Mais bon, moi, j'ai...
Préparez-vous à de la lecture.
J'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai eu le communiqué de presse, mais l'étude fait 128 pages. Donc,
parfait pour une lecture de vacances.
Ben, parfait pour une lecture de vacances, voilà, sur le bord du feu.
Maintenant, on poursuit avec 20 sources de douleurs qui sont liées à des états émotionnels particuliers. Ça vient d'un article publié par une psychologue américaine, c'est ça, Martin?
Oui, la docteure Susan Babel, une psychologue qui est spécialisée dans la dépression causée par les traumatismes. Elle a publié un article dans le magazine Psychology Today, qui est quand même une autorité dans le domaine de la psychologie, et elle dit que des études ont démontré que la douleur chronique peut être causée par une blessure physique, mais également par le stress et les problèmes émotionnels, et donc elle dresse une liste des différents impacts physiques de certains états émotionnels. Par exemple, la douleur dans le cou peut être associée à des problèmes à pardonner les autres ou à se pardonner à soi-même. Les douleurs aux épaules peuvent démontrer que vous traînez un fardeau émotionnel. Les douleurs à l'estomac peuvent survenir lorsque vous n'avez pas digéré au sens figuré, contrairement au sens propre, mais évidemment, les douleurs à l'estomac peuvent être associées aussi à des causes physiques. La douleur au sacrum, il se pourrait que vous soyez assis sur un problème qui doit être résolu.
Évidemment, et tout ça là, est sérieux.
Oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et Dr Babel, bon, est quand même une psychologue qui est reconnue. Mais c'est sûr, évidemment, on entend ça au premier degré, ça peut sembler de la psychopop, mais c'est quand même, c'est très sérieux. Psychologie Today, je le rappelle, c'est un magazine qui est quand même qui possède quand même une bonne crédibilité.
Oui. Maintenant, dernière minute de cette revue de presse. Une bonne nouvelle pour les végétariens, Martin.
Oui.
Une liste d'aliments qui contiendraient plus de fer que la viande rouge.
Oui, bien souvent, on pense à tort, on va le voir, là, que la viande est la source principale de fer. Et donc, quand on a une carence de ce minéral, eh bien, on se dirige automatiquement vers la viande, surtout la viande rouge. Mais une liste que j'ai trouvée, bon, qui relève plusieurs aliments qui ne sont pas de la viande et qui contiennent des quantités appréciables de fer. Je pense notamment au soja, au mori, qui sont un type de champignon, le sésame également, le chanvre, le chocolat, les abricots secs, la mélasse, le quinoa. Donc, tous des aliments qui peuvent venir justement, comme tu le disais, Marianne, pour les végétariens, c'est une excellente nouvelle parce que ça donne justement là, ça donne des ressources pour pouvoir justement pallier à des carences de fer qui sont souvent associées dans l'imaginaire collectif à un régime végétarien.
Oui, et diversifier l'alimentation. Et bien sûr, dans les prochaines années, on devra avoir à l'œil toutes les protéines qui nous viennent des insectes. Hein. Ça sera de l'alimentation de l'avenir.
J'ai l'impression qu'il y a une barrière psychologique quand même chez beaucoup de gens.
Oui, oui. Pour les courageux, bien sûr. Martin Forgue, merci beaucoup.
Mais merci à toi.
Nouveau recherchiste de cette émission en remplacement d'Anne-Laure Janson qui est partie en congé de maternité. Joyeuse fête à toi.
Joyeuse fête et joyeuse fête à tout le monde à la maison.
Merci, Martin. Docteur Bigrat, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Bigrat, cardiologue pédiatrique, co-directeur du Centre Circuit et chef du service de cardiologie du CHU Sainte-Justine. On est là pour parler du Centre Circuit dont vous êtes le co-directeur, Docteur Bigrat, et surtout pour parler de saines habitudes de vie qui sont souvent transmises par les parents. Et c'est ça que vous avez envie de souligner aujourd'hui.
Oui, nous, le programme Circuit, on l'a formé au début des années 2000 et puis on était inquiet de la situation de la population pédiatrique. Quand on travaille dans nos cliniques au CHU Sainte-Justine, on voyait arriver de plus en plus des enfants qui se présentaient pour une problématique X et du coup, on identifiait chez ces enfants-là une problématique d'embonpoint, d'obésité. Donc, c'était une incidence qui augmentait avec le temps. Et là, on a fait un regroupement de plusieurs professionnels qui s'intéressaient à cette problématique-là. Et on a formé le programme Circuit justement pour faire de la prévention et de la réadaptation là, des maladies cardiovasculaires.
Oui. Centre Circuit, je tiens à le dire, c'est pour Centre d'intervention en prévention et en réadaptation cardiovasculaire pour toute la famille. Docteur Bigrat, lorsqu'on pense à l'enfance, à l'enfant, c'est très rare que l'on associe ça à des maladies cardiovasculaires.
Ah, tout à fait. Mais nous, quand on regarde la littérature scientifique, on voit déjà qu'il y a des plaques graisseuses qui se déposent dans les coronaires, dans tous les vaisseaux du corps dès l'enfance. Donc, si on dit qu'on a un embonpoint et une obésité, on fait accélérer ce processus de vieillissement-là. Donc, on est un peu inquiet du taux d'incidence d'angine, d'infarctus qui va apparaître à un plus jeune âge chez ces enfants-là.
Oui. On avait envie d'en parler aujourd'hui du Centre Circuit parce que vous avez une approche qui est vraiment unique, qui est vraiment particulière.
On a tout d'abord débuté, nous, notre programme, on s'est dit on va commencer de façon très ciblée et quand on a regardé autour ce qui se faisait dans notre centre hospitalier, on s'est dit on va tout d'abord débuter avec l'activité physique. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. On a établi un programme qui évaluait les enfants à quel point ils avaient de capacité physique, de tolérance à l'exercice et on les évaluait dans leur environnement, autour de leur maison, quelles activités qu'ils faisaient. Et on leur donne un programme qui augmente l'activité physique, non seulement chez l'enfant, mais chez toute la famille, dans leur propre environnement. Et c'est vraiment la spécificité du début de notre programme.
Docteur Bigrat, en tant que cardiologue pédiatrique, vous travaillez au CHU Sainte-Justine. Donc, bien sûr, on comprend, vous travaillez avec les enfants, mais bien sûr, avec leurs parents aussi, les familles. Est-ce que le changement d'habitude de vie, il vient de l'enfant qui sensibilise son parent, d'après vos observations, ou vraiment par le parent qui, plutôt, va avoir une certaine influence sur son enfant? Est-ce que vous travaillez sur les deux pôles?
Ah oui, tout à fait. Nous, notre intuition, c'est vraiment de vouloir cibler la famille au complet. On veut changer les habitudes de vie. Évidemment, c'est l'enfant qui se présente chez nous, mais on veut vraiment enseigner. On donne des cours de cuisine pour les parents. On donne des cours pour l'adolescent. On a des camps de vacances pour les enfants. Puis les parents viennent les rejoindre. On fait des sorties familiales. Donc, on vise la famille pour pouvoir faire changer les habitudes de vie. C'est clair, c'est démontré. Si on adresse seulement l'enfant, tout va retomber par la suite. Il faut aller de façon plus systématique dans la famille pour pouvoir faire des saines habitudes qui vont s'établir de façon permanente.
Oui. Ce qui vous distingue aussi au Centre Circuit, Dr Bigrat, c'est qu'il y a toute une équipe multidisciplinaire qui travaille en équipe pour mieux entourer les familles.
Oui, on a beaucoup appris de cette équipe multidisciplinaire. On a une spécialiste de l'environnement bâti.
Ah ouais.
Donc, j'apprends au fur et à mesure que le nombre de dépanneurs est associé au taux d'obésité dans le quartier. Mais on apprend plein. Et justement, c'est l'information qu'on recueille, cette expertise-là qu'on recueille, qu'il faut transmettre et puis qui va nous apprendre à mieux. Vous savez, j'ai lu un article extraordinaire. On a des gènes paléolithiques et on a un environnement qui s'est complètement transformé au cours des 100 dernières années. Et il faut changer notre façon de vivre. Auparavant, il fallait travailler fort pour obtenir la nourriture, il fallait chasser, il fallait cueillir, mais maintenant, on ouvre une porte d'armoire, puis tout est là. Il faut vraiment changer beaucoup de choses, puis ça sera pas facile, ça va être long, mais c'est possible. On a déjà démontré que de la prévention, ça se fait avec le cholestérol, avec le tabagisme, il va falloir aussi changer nos habitudes de vie en termes d'alimentation et d'activité physique.
Oui, parce que non seulement on ouvre un frigo et tout est là, la chasse, on n'a plus besoin de l'inclure à notre mode de vie, mais en plus, on prend nos voitures pour se déplacer et il y a les écrans aussi qui sont très présents, bien sûr, dans notre quotidien. C'est quoi vos recommandations globales, là, je dirais, en matière d'utilisation de l'écran, Dr. Bigrand?
Alors, quand je regarde les articles récemment, c'est effarant. La moyenne des adolescents dans certaines sections des États-Unis, c'est 6 heures par jour de temps d'écran. Et dès qu'on dépasse le 6 heures, ça c'est la moyenne, hein? Donc dès qu'on dépasse le 6 heures, il y a un taux d'obésité qui augmente de façon importante chez l'enfant. Et plus que c'est un temps d'écran associé à la télévision, plus que ce taux augmente, parce qu'on pense que c'est relié aussi aux annonces d'alimentation, de nourriture. Et les enfants vont avoir tendance à manger plus à ce moment-là. Donc, le temps d'écran doit être diminué, mais c'est devenu une tâche qu'on apprend à chaque année. Vous savez, les enfants maintenant doivent faire de l'Internet pour faire des devoirs, sont attirés du coup par Facebook, par toutes sortes d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rééduquer, apprendre et diminuer, parce que c'est une tentation trop grande pour les enfants d'aller en dehors de ce qu'il faut faire. Oui. Donc, beaucoup, beaucoup à apprendre à ce sujet.
Et on le sait, de plus en plus, l'enfant apprend en s'amusant. Le plaisir, ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Donc, est-ce que vous avez des petits trucs concrets que vous communiquez aux parents pour sensibiliser leurs enfants aux saines habitudes de vie, pour réviser les habitudes de vie tout en s'amusant?
Oui, une des intuitions qu'on a, c'est qu'on va faire des sorties familiales. Donc, juste le fait de sortir un peu de notre carcan, c'est-à-dire que notre petit téléphone cellulaire, notre petite tablette, on sort dehors, on s'amuse, ça développe des liens qui sont vraiment fondamentaux pour l'estime de soi, pour le plaisir. Donc, juste de manger en famille, d'arrêter la télévision, de prendre le temps de préparer le repas. Ça a l'air tellement banal de ce point de vue-là, mais quel investissement au point de vue de la richesse, de l'estime de soi, du bonheur personnel.
Oui, tout à fait. On parle aussi du centre-circuit aujourd'hui parce que vous avez un portail web, centrecircuit.com. Tous les Québécois peuvent y avoir accès dans leur foyer. On peut y retrouver des exemples d'activités, des trucs très, très concrets. Ça va permettre de mieux servir votre mission, ce portail web, Dr. Bigrand.
Oui, parce que nous, ce qu'on voulait, on voulait dépasser un peu, parce que physiquement, géographiquement, on peut pas accueillir le Québec ici. Donc, on veut faire bénéficier de toute l'expertise qu'on accumule et on veut la disséminer. Donc, d'où l'intérêt du portail web. On a deux grands volets dans ce portail web-là. On s'adresse aux familles, aux enfants, aux parents. On donne des trucs sur toutes les saines habitudes de vie, mais aussi on s'adresse aux professionnels de la santé pour les recommandations plus officielles, comment traiter, puisqu'on reçoit des appels d'un peu partout de la province du Québec pour avoir notre expérience. Mais sur ce site-là, on partage tranquillement notre expérience pour pouvoir améliorer les saines habitudes de vie de la famille québécoise.
Dr. Jean-Luc Bigrand, co-directeur de ce centre-circuit, centrecircuit.com. Ça a été un plaisir de vous parler. De joyeuses fêtes à vous.
Merci, vous aussi.
Au revoir. Pierre Crêpe, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Le voyage au Mexique a été bon et profitable.
Le voyage au Mexique a été très bon. Vraiment, écoutez, c'est inimaginable à quel point ça peut nous sortir du quotidien puis nous reposer.
Pierre Craig, on est là pour parler d'une annonce que vous avez faite à la fin du mois de novembre. Vous avez révélé publiquement que vous vivez depuis quelques années avec un trouble panique. Pourquoi avoir eu envie d'en parler après plusieurs années avec ce trouble-là?
Bon, comment je vous dirais ça? C'est drôle parce que je regardais à la télévision au Mexique, parce qu'on avait TV5 Monde, une émission avec Mireille Dumas. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose ou ça dit quelque chose aux auditeurs et auditrices. Là, c'est une excellente journaliste française. Elle interviewait des grands politiciens français, dont Bayrou. Je ne me rappelle pas son nom, à Bayrou, là, qui est un politicien très, très connu en France. Et lui était prêt avec un bégaiement. Et il a dit, je l'ai apprivoisé, on peut pas vaincre une chose pareille, on l'apprivoise. Je pense que j'ai apprivoisé cette affaire-là, ce trouble panique-là, des crises de panique. Apprivoiser, ça veut dire on vit avec, ça peut revenir, c'est jamais complètement disparu, il y a toujours, la possibilité, comme je dis, que ça revienne, mais l'ayant apprivoisé, je me suis dit, ben, deux choses. La première, je vais peut-être m'en libérer encore plus en le disant. Comme ça, c'est réglé, là. Si je fais une crise de panique en quelque part, je pourrais dire à tout le monde, ben je vous l'avais dit. C'est bon. Alors, tu te débarrasses un peu de ça. Puis la deuxième chose, je me suis dit, je suis certain que je peux aider des gens en disant ça. Moi, je suis quand même assez chanceux là-dedans. Ça ne m'atteint pas d'une façon morbide, là. Je crois qu'il y a des gens qui sont extrêmement atteints par ça. Ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui sont très, très atteints. Donc, c'est ça, deux raisons. Me libérer, même si, comme je vous dis, ça ne règle pas le problème, et aider les gens.
Oui. Aider, c'est ce que vous avez voulu faire en devenant le porte-parole de cet organisme Revivre. Évidemment, c'est aussi pour ça que l'on vous reçoit. Et aider en parlant de ce que vous avez vécu. Parce qu'on pourrait penser, Pierre Craig, que lorsqu'on est journaliste, comme vous l'êtes, animateur de grandes émissions d'affaires publiques, on a plutôt envie de garder ça secret. Vous, vous dites non, d'en parler, au fond, ça m'a donné des outils pour mieux combattre ou mieux vivre avec mon trouble panique.
Oh, écoutez, gardez ça secret. Vous savez, moi, j'ai 65 ans, là, j'ai plus rien prouvé. Et j'ai remarqué une chose. Je vous raconte une anecdote.
Oui.
Je me retrouve, quand j'étais président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, j'ai été invité par les collègues de Moncton, au Nouveau-Brunswick, à venir faire une conférence. Céline Guilipeau, ma collègue, était invitée aussi. Alors, Céline et moi, on se retrouve devant peut-être une cinquantaine, une soixantaine de collègues. Céline fait sa conférence, et là, c'est mon tour après elle, et je leur dis que je suis atteint du trouble panique. Puis là, à un moment donné, j'arrête de parler. Et je leur dis, écoutez, vous allez trouver ça drôle, mais je suis en train de vous en faire une en ce moment même. C'était pas dramatique. Je cherchais mon souffle. C'est ça que ça provoque, là. Ça peut provoquer un syndrome d'évanouissement, de début d'évanouissement qui n'en est pas vraiment un, mais on a l'impression qu'on va s'évanouir. Ou moi, ça fait en sorte que je trouve plus mon air. Bon. Et à la fin de la conférence, Céline vient me voir. Ben, dit Pierre, tu niaisais, là. Et puis ça, je me suis fait dire ça par beaucoup de collègues.
Ouais.
Tu niaisais, là. Écoutez, moi, je me fais 6 pieds 2, je suis assez large d'épaule. Les gens m'imaginent comme un roc de Gibraltar, ce que, bien sûr, je ne suis pas. Et là, Céline me dit, tu niaisais. Je dis, non, Céline. Et j'ai immédiatement senti que ça l'avait rapproché de moi.
Ouais.
Alors, la vulnérabilité, ça éloigne pas les gens, ça les rapproche. Tout ça pour vous dire, tu sais, j'ai plus rien à prouver et je crois pas que ça éloigne des gens. Je suis sûr que ça peut aider des gens. Puis je vais donner des conférences, là. Je vais aller dans un cégep après Noël, là. Jean-Rémy Provost de Revivre me dit qu'on est invité, lui et moi, à aller parler à des jeunes. Ben, je vais leur parler de la peur en général, de ma peur, de mes peurs, du trouble panique. Puis tout ça, je suis certain que ça peut aider ces jeunes-là.
Pierre Craig, quels outils vous avez pu vous donner au cours de ces années-là pour mieux vivre? Bon, je sais qu'il y a des bouquins, je sais que vous avez consulté aussi, mais dans le quotidien, lorsque vous étiez en onde, lorsque vous étiez en direct et que ça montait, qu'est-ce que vous donniez comme outil?
Ben, le premier outil, c'est de décider d'y aller malgré ça. Premier outil, c'est pas vrai là, que je vais m'empêcher de vivre parce que je vis ça, je vais y aller pareil. Bon, t'as peur que ça arrive.
Ouais.
Mais là, bon, ce que j'ai appris, le livre, c'est la peur d'avoir peur. Il y en a probablement d'autres, là. C'est un dénommé Marchand qui est un psychologue.
André Marchand, oui.
Oui, c'est cela. Puis il y a une autre auteure aussi, non, malheureusement, je
André
me rappelle
Letarte.
Pas. Voilà, merci. Hey, vous avez fait vos recherches, c'est bien. Alors, c'est un bon livre à lire. La peur d'avoir peur, ça explique des choses. Puis pour des gens, là, c'est peut-être le début de quelque chose. Bon, donc, lire ce livre-là. Ensuite, ce que la thérapie m'a fait, puis j'ai pas été en thérapie pendant 6 mois, là, j'ai eu peut-être une dizaine ou une douzaine de séances, ça a été que, garde, tu ne peux pas te battre contre cette chose-là. Okay? Donc, quand ça vient, t'acceptes. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais les outils, c'est je respire, il faut que j'y pense.
Oui.
Il faut que je me dise avant d'entrer en onde, bon, ça se peut, là, mais garde, On va respirer par le ventre. Je respire par le ventre. Si je me dis tout ça, ça vient pas. Puis si jamais ça vient, mais maintenant que je l'ai dit publiquement, c'est le meilleur outil, je vais le dire publiquement. Si, parce que je l'ai dit à André Robitaille, avec Marc-André Masson, avec Dominique Poirier, ça m'est arrivé. Mais la prochaine fois que ça m'arrive, là, ben je vais dire aux gens, oh ben là, petite crise de panique, OK, c'est passé, let's go, on continue. Puis la vie va continuer. Ça, c'est le meilleur outil pour moi, c'est ça. C'est de le dire. C'est un outil puissant, ça.
Oui. Il y a aussi, bon, cette envie.
Mais juste, Marianne, je pense pas que les... Moi, le message que je veux transmettre aux gens, je m'excuse, là, je vais employer un gros mot, laissez-vous pas écœurer par ça. Parlez-en. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi puis d'aller sur la place publique. Là. Moi, je suis un homme public, donc je me suis dit, tu sais, moi, j'ai eu la chance qu'André Robitaille m'appelle, viens, on va en parler. Il a tellement été fin, je me suis tellement senti entouré par lui puis les gens qui sont autour de lui puis par toute l'équipe technique de Radio-Canada. Écoutez, c'était très émouvant pour moi d'être là et de me sentir entouré à ce point-là. Mais je veux dire aux gens, parlez-en au monde autour de vous. Ça ne les éloignera pas, contrairement à ce qu'on pense. Ça va les rapprocher. La vulnérabilité, ça rapproche les gens. Ceux que ça éloigne, là, ben, tant mieux qu'ils restent loin. Ouais. Parce que la plupart des bonnes personnes, des bonnes gens, puis des gens qui ont une tête sur les épaules, puis qui sont grandis, comme on dit, ils vont se rapprocher de vous. Alors, parlez-en.
Et d'ailleurs, à travers cette entrevue que l'on peut encore voir là, sur tout.tv, c'était dans le cadre de l'émission Entrée principale, on peut vous voir faire peut-être votre première attaque ou trouble panique là, en compagnie de Paul Oud, entre autres choses. Ça vous a beaucoup ému de revoir
de
ça?
Oui, écoutez, ben, parce que moi, j'allais donner une entrevue en direct à Dominique Bertrand et Paul Oud, et ils voulaient me parler de la couverture que j'avais faite peut-être quelques mois auparavant des événements de septembre 2001. Ouais. Et je me mets à leur raconter ça, puis là, je commence à sentir que je suis en train de m'évanouir en direct. Alors là, je ne sais pas si vous savez, mais je bande toute ma force, comme j'ai dit à André, puis j'en ai pas mal. Mais plus je le fais, plus ça me met à terre, plus c'est plus fort que moi, là. C'est plus fort que nous autres, cette affaire-là. Et écoutez, je me rappelle que Paul, il avait peur à un moment donné à la pause commerciale. Il dit, Pierre, t'es blanc comme un drap. Est-ce que ça va? Je pense qu'il pensait que je faisais une crise ou quelque chose du genre, là. Mais oui, ça m'a ému parce que c'était la première vraie fois que ça m'arrivait. Ça a été suivi de plusieurs autres. Et je peux vous dire une chose, puis je reviens à ce que j'ai dit, là. Quand je dis aux gens, laissez-vous pas écœurer par ça. J'ai dû, pas si longtemps, peut-être en 2004-2005, donc c'était pas si longtemps après l'affaire de Paul Oud et Dominique Bertrand, aller chercher à l'Assemblée nationale le prix.
Il reste 20 secondes, Pierre Craig. Je redirige les gens vers le www.revive.org pour aller chercher de l'aide. Merci pour votre grande générosité.
Et
vous nous avez beaucoup touchés.
S'il vous plaît, parlez-en, ne serait-ce qu'à votre famille. Commencez par ça.
Certainement. Parlez-en. Merci, Pierre Craig. Joyeuse fête. Au revoir. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. Stéphanie Béchard, infirmière spécialisée, praticienne en cardiologie au CHUM, sera là pour nous parler du Grand Prix du Coopératon 2016 qu'elle a remporté. C'est assez prestigieux comme prix, vous allez voir. Ça souligne l'innovation en matière de santé. Et elle a remporté ce prix avec l'application @cœur. Elle sera en studio avec nous, Stéphanie Béchard, pour nous en parler davantage. Mais avant, on se retourne vers la Mauricie, le centre du Québec, avec Sylvain Hainaut et Maude Bourgeois. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Mme Paquette.
Bonjour.
Alors, Sylvain Hainaut, vous vivez du côté de la ville de Latuc, Maude Bourgeois. Vous êtes où, Maude, exactement?
Plus précisément à Trois-Rivières, mais la Fondation, comme vous le disiez, là, couvre la Mauricie et le centre du Québec.
Oui, justement, la Fondation, le parrainage, on va en parler, parce que vous êtes tous les deux investis dans un projet qui a beaucoup suscité notre imaginaire ici au Canalem, à savoir l'ascension d'un volcan en Équateur, le Chimborazo. Et là, attention, je tiens à le dire d'entrée de jeu, là, on parle ici de 6268 mètres d'altitude. Pour une fille qui a fait le Machu Picchu cet été, c'est de la petite bière à côté. C'est pour ça que je pense que ça a attiré autant notre attention ici. Donc, l'ascension va permettre de récolter des fonds, de l'argent pour votre fondation, le parrainage. Et aussi, je pense que ça sert à sensibiliser le grand public à l'autisme et à la déficience intellectuelle. Tout d'abord, Maude Bourgeois, vous qui êtes porte-parole de ce projet-là, la fondation, le parrainage, quels sont les services et la mission?
Oui, alors, faut savoir que la Fondation existe depuis plus de 25 ans. Donc, elle couvre le territoire, comme on le dit, de la Mauricie-Centre du Québec. Et son objectif est vraiment de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut offrir, exemple, du matériel spécialisé, du répit aux familles. Et on offre beaucoup aussi des activités de loisirs, donc des camps de jour ou des camps de vacances là, pour les personnes durant l'été. Mm-hmm.
Sylvain Henault, vous avez décidé avec votre fille, avec votre conjointe, de vous impliquer dans ce projet-là, de faire l'ascension du volcan au profit de la Fondation Le Parrainage. Pourquoi cette envie? Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui vivent avec l'autisme ou une déficience intellectuelle?
Pas directement dans notre famille, mais de par nos activités, moi, entre autres, là, j'ai travaillé là, en enseignement auprès de cette clientèle-là. Puis, ma fille, de par ses activités, entre autres, là, au niveau de la maison de jeunes, ces choses-là, ben, c'est des gens là, qu'on côtoie quand même dans notre quotidien, puis une cause à laquelle on est déjà sensibilisé.
Oui. Ce qu'il y a d'assez intéressant dans le projet du Chimborazo, c'est que vous avez inclus des gens, des jeunes qui vivent eux-mêmes avec un trouble du spectre de l'autisme ou la déficience intellectuelle. Pourquoi, Maud, c'était important d'inclure ces personnes-là aussi dans le projet?
Bien, je vous dirais que la Fondation donne à ces personnes-là, donne aux familles. Pour la Fondation, c'est très important d'intégrer comme membre à part entière les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, de les valoriser, de les intégrer à l'intérieur des activités de financement qu'on fait, parce que c'est pour ces personnes-là qu'on donne et elles deviennent de très bonnes personnes ambassadrices, si je peux dire, parce que en fait, on donne à ces personnes-là, bien, en retour, on souhaite les valoriser, les intégrer dans les activités, faire en sorte qu'elle se dépasse, surtout dans le cadre de l'activité du Chimborazo. On comprendra que c'est un défi de taille, peu importe pour qui. Donc, c'était important qu'on ait nos athlètes, comme on les désigne, qui soient nos dignes représentants de cette activité-là et qui soient à nos côtés pour accomplir ce défi.
6268 mètres d'altitude, c'est pas banal. Comme je faisais la comparaison avec le Machu Picchu, puis je disais que c'est de la petite bière à côté. Sylvain Henault, est-ce que ça vous arrive à vous, à votre conjointe, votre fille, de dire « Mais dans quoi je me suis embarquée, moi, là?
» Non, je pense pas. On est conscient du défi que ça représente. Je pense que c'est vraiment un beau défi à relever, là, avec la Fondation, puis les athlètes. Puis aussi, nous autres, on a la chance de pouvoir là, relever ce défi-là en famille. Puis je pense que quand on fait face à une montagne comme ça, je pense qu'on le dit, on s'en va faire l'ascension, mais je pense qu'il s'agit plus d'une tentative d'ascension, là, compte tenu qu'à ces altitudes-là, là, on est face à la nature, puis on est vraiment pas gros là, à ce niveau-là. Donc, on peut faire face à différentes difficultés, puis c'est un défi, je pense, pour toutes les gens qui font partie là, du projet là, de faire l'ascension là, de ces monts-là. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit, bon, c'est un élément de motivation supplémentaire, je pense, pour l'entraînement, parce que l'entraînement là, fait partie là, d'une très grande partie là, de la préparation là, avant de se rendre à l'Équateur.
Oui, Sylvain, on le disait tout à l'heure, vous y allez avec votre ado. C'est un beau leg à lui transmettre, c'est une belle sensibilisation à lui faire un bas âge.
Je pense que oui. Comme je disais, là, déjà, c'est déjà une adolescente qui est quand même impliquée dans son milieu, donc elle a quand même une certaine là, ouverture d'esprit, puis elle a envie de découvrir le monde, puis elle est consciente là, que ça va être tout qu'un défi. Mais effectivement, je pense que ça va être un beau leg là, qu'on y fait, puis c'est une belle opportunité qu'on a de faire sans famille, puis de bâtir là, vraiment des souvenirs qui risquent d'être mémorables.
Évidemment, on parlait d'exploits sportifs, de défis sportifs. Maud, bon, vous faites partie aussi de l'ascension du projet, de l'ascension de ce volcan-là. Comment vous vous préparez physiquement avec la gang à ce projet en juin 2017?
Oui, parce que c'est sûr qu'au-delà de la somme du 40 000 $ qu'on doit amasser, dans le fond, l'équipe qui part, on est composé de 15 personnes. Donc, on a un montant de 40 000 $ à amasser, mais au-delà de du montant financier qu'on va remettre à la Fondation, il y a un entraînement
très
important qu'on doit respecter. Donc, c'est sûr que chacune des personnes est responsable d'avoir un plan individuel là, sur de se prendre en main, d'avoir une certaine rigueur quant à soit en allant au gym, en pratiquant une activité sportive, mais on fait également là, des sorties de groupe hein, pour pour se connaître, pour voir ensemble nos capacités, mm-hmm. puis s'entraider. Donc, je dirais principalement, ces deux, on mise beaucoup sur l'entraînement individuel ainsi que les sorties de groupe, mais il faut dire qu'on est suivi aussi. Hein. La Fondation a le souci quand même de s'assurer que les gens soient en bonne condition pour le faire, parce que c'est pas un défi, c'est pas un mince défi. Alors, on est suivi aussi par une firme de kinésiologues là, qui nous ont évalués, qui vont nous suivre jusqu'au départ pour s'assurer qu'on est on est disposé à faire l'activité, puis à accomplir le défi, du moins à essayer de l'accomplir. Là.
Comment ça se passe, le contact avec les jeunes qui vous accompagnent, les athlètes, comme vous les désignez?
Ça se passe très bien, ma foi. Je pense que j'ai bien hâte de vivre l'aventure avec ces personnes-là, avec nos trois personnes, avec Simon, Dominique et...
Maxime,
oui. Voilà. Nos trois jeunes sont très en forme, sont très... c'est des gens qui ont déjà une bonne condition physique. Ces trois garçons, donc, ils prennent vraiment, je voudrais, à cœur leur entraînement et le défi. Sont très impliqués non seulement dans leur plan d'entraînement, mais mm-hmm. aussi au niveau des activités de financement qu'on a à faire là, comme équipe. Là. Donc, ils sont très, très, très motivés, je dirais.
La réponse peut venir de Sylvain ou de Maud. Est-ce que, bon, vous êtes en contact, j'imagine, avec les parents de ces ados-là, les trois athlètes là, qui vous accompagnent au cours du projet en juin 2017? Ça représente quoi, cet investissement humain, de temps, d'énergie, de santé aussi pour les parents de ces jeunes-là? Est-ce que vous êtes en contact, j'imagine, avec eux?
Oui.
Allez-y, Sylvain.
Oui, absolument. Ben, je pense que aujourd'hui, avec les médias sociaux, là, ça nous permet justement d'avoir des canaux de communication là, qui sont assez efficaces. Puis effectivement, les parents se sont joints là, au groupe, puis se préoccupent beaucoup. Là, je pense qu'il y a une certaine inquiétude par rapport aux parents, hein. À savoir est-ce que bon, ils vont avoir tout le matériel et tout ça. Puis ils réalisent, je pense, l'ampleur de la logistique puis de la préparation que ça demande de faire une expédition comme ça. Mais je pense qu'on a des rencontres régulièrement, les parents sont invités, puis ce qu'on voit présentement, c'est que les parents là, se rassurent à mesure que le temps avance, qu'on leur donne l'information, ils sont rassurés de voir que les gens sont vraiment impliqués puis à l'intérieur du projet, puis qu'ils se préoccupent là, de la santé, de la sécurité puis du succès là, de cette entreprise-là là, pour tous et chacun.
Mmh. Maud Bourgeois, oui, allez-y.
Je rajouterais que c'est sûr qu'un voyage comme ça, ça se fait pas seul, donc on est aussi très, très en lien avec une compagnie là-bas qui va nous suivre, qui va nous accompagner finalement dans le trek, là, dans la randonnée. Là, donc, on n'est pas... La sécurité, comme disait Sylvain, est très importante. La sécurité, s'assurer que ça va se passer dans des conditions, là, dans de bonnes conditions. Donc, on est très, très au fait et très... on a le souci de renseigner adéquatement les parents là, pour qu'ils soient rassurés. Là, donc, la Fondation, à ce niveau-là, là, travaille très fort puis communique régulièrement avec les parents.
Maud, l'objectif est de 40 000 $.
Oui.
Ça servira à quoi au sein de la Fondation, le parrainage?
Bien, comme je le mentionnais plus tôt, en fait, la Fondation là, remet l'argent principalement dans les pour l'achat de matériel spécialisé, pour offrir du répit aux parents, pour offrir des camps de jour. On sait que les camps spécialisés, parfois, peuvent être très coûteux pour les personnes. Donc, c'est sur la base des demandes qu'on a, qu'on analyse rigoureusement. Tout dépendant du projet des personnes qui nous sont soumises, on va s'assurer de remettre ces sous-là dans les projets qui sont bien, comment je pourrais vous dire ça, qui nous parviennent et qui pour lesquels la mission de la Fondation peut répondre. Donc, c'est sûr que c'est une bonne somme, mais depuis, je vous dirais, 2010, la Fondation a remis plus de 250 000 $ à l'Ontario du Québec. Donc, c'est une somme qui sera certainement bien investie là, dans les différentes sphères de la Fondation.
On peut vous aider tous les deux en allant donner une somme à jedonneenligne.org/leparrainage pour vous aider à l'ascension de ce mont en Équateur. Et puis, au fait, Maud Bourgeois et Sylvain Hinault, pas d'excès, là. Sinon, ça ne fonctionnera pas là, pour l'ascension du mont.
Ha 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 ha. Oui, Mme Paquette, si vous me permettez, j'ajouterais juste pour le bénéfice des auditeurs que le 40 000 $ qui est amassé va vraiment à la Fondation et que chaque membre, on défraie nos voyages. Donc, c'est vraiment des sous qui sont remis à la Fondation. Des fois, les gens peuvent avoir certaines craintes par rapport à ça. Alors, je veux juste le spécifier. Et j'inviterais aussi les gens à consulter le site dont je donne à nous.org le parrainage, mais également notre page Facebook pour suivre toutes les activités de financement qu'on réalisera dans le cadre du Tumor Azo. Donc, la page la Fondation Le Parrainage, page Facebook pour avoir plus d'informations. Et non, on n'offre pas trop d'excès pour le temps des fêtes. On gardera ça pour après l'ascension s'il y a lieu.
Tout à fait.
De souligner l'exploit, oui.
Et pour en savoir davantage sur la Fondation Le Parrainage, CRDI TED MCQ pour Mauricie, Centre du Québec, .qc.ca. Monde Bourgeois, Sylvain et nous, tous deux impliqués dans ce très beau projet juin 2017, l'ascension du volcan en Équateur. La meilleure des chances à vous et bien sûr votre famille, Sylvain et nous, et tous ceux qui vous accompagnent. Et puis joyeuse fête, bien sûr, à vous deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Bye-bye. Stéphanie Béchard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Il faut dire que le CHUM, c'est juste à côté. Ça vous a fait une petite marche de santé sur l'heure du dîner.
Exactement, exactement.
Stéphanie Béchard, vous êtes infirmière praticienne spécialisée en cardiologie au CHUM, voilà, et instigatrice de cette application à cœur, @cœur. Vous avez remporté, il y a de ça quelques semaines, le Grand Prix du Coopératon 2016. Félicitations. C'est un prix quand même qui est peut-être pas très connu du grand public, mais assez important, prestigieux. Ça vise à promouvoir l'innovation technologique en matière de santé. Ça représentait quoi pour vous de remporter ce prix-là, Stéphanie Béchard?
En fait, c'était une très grande distinction, puis nous en sommes très fiers. On a dû travailler pendant 4 semaines de soir, de nuit, les week-ends, pour arriver à développer cette application-là qui allait répondre à un besoin pour les patients insuffisants cardiaques.
Oui. @cœur, voilà, c'est l'objectif. Et je dis quand vous êtes l'instigatrice, c'est que c'est votre bébé, ça vient d'un constat que vous avez fait. Vous étiez dans votre salle d'attente, là, sur votre lieu de travail, vous regardez les patients, et là, l'idée a germé en vous.
Effectivement, faut comprendre là, qu'au Québec, il y a environ 175 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas une maladie qui touche peu de gens. Là. Oui. C'est quand même un volume, un bassin de nombreux
important
de patients. Et puis, bon, ça implique qu'on reçoit un diagnostic d'insuffisance cardiaque, de faire plusieurs modifications dans nos habitudes de vie. Puis, entre autres, on demande aux patients qui souffrent de cette maladie-là de devoir se peser tous les jours, de limiter la quantité de liquide qu'ils boivent à 1,5 litre par jour, de prendre leur pression quotidiennement. Et puis, actuellement, les patients, quand je les vois, puis je fais le suivi de ces patients-là, ils inscrivent ces données-là sur une feuille que je leur remets. Puis, je me suis dit, je peux pas croire qu'en 2015, on fait encore un suivi avec une feuille de papier. Puis dans la réalité, je suis tout le temps en train de demander aux patients, hey, « Où la feuille de papier? » J'ai oublié la feuille de papier. Puis je vois les patients dans la salle d'attente qui sont en train de lire la presse sur leur iPad ou leur tablette. Puis quand je leur donne leur prochain rendez-vous, ils l'inscrivent dans leur téléphone. Puis je me dis, moi, je leur remets une feuille de papier pour faire le suivi. Alors, je m'étais dit, je peux pas croire qu'il n'y a pas une façon en 2015 pour optimiser le suivi de ces patients-là. Mais moi, infirmière praticienne, j'ai pas les connaissances et l'expertise pour développer une application. La technologie, la porte d'utiliser un téléphone intelligent, j'y connais rien de plus. Alors, quand j'ai vu passer cette compétition-là de Coopératon, je me suis dit, c'est la chance qui se présente.
De vous investir. Donc, justement, c'est intéressant qu'une infirmière praticienne spécialisée, qui n'est pas une « geek », là, entre guillemets, décide de mettre sur pied une application. C'était quoi les premières étapes, Stéphanie Béchard, là, pour développer votre application @cœur?
Oui, bien la première étape non négligeable était, à travers le Coopératon, de vendre mon idée pour que les gens qui font partie de la de la technologie aient envie de s'investir dans mon projet.
Ah, ouais. Uh-huh.
Alors, il a fallu que je trouve un designer, un développeur, un architecte informatique pour qu'on puisse avoir une équipe qui allait arriver à développer cette technologie-là pour les patients.
Oui. Comment fonctionne l'application?
Jusqu'à maintenant, on est encore au modèle, ce qu'on peut dire, un prototype avancé. Là. Les patients ne l'utilisent pas formellement encore. Là. On leur remet l'application, puis on les observe de la façon qu'ils l'utilisent pour voir si on peut l'améliorer pour être certain que le jour où les patients vont officiellement rentrer chez eux avec l'application puis qu'on va les suivre de cette façon-là, que l'application fonctionne
bien. C'est la phase test.
Exactement. Alors, bien, en fait... On a fait ça relativement simple parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un changement. Les patients écrivaient sur du papier, là, on leur demande de le faire sur leur téléphone. Donc, on voulait, peu importe le changement qu'on fait dans la vie, il y a toujours quand même une réticence au changement. Oui. On est ébranlés par le changement.
Mais déjà aussi que lorsqu'on vit avec une insuffisance cardiaque, et vous l'avez bien mentionné, on a déjà... tout plein de changements.
Exactement.
À faire dans notre quotidien. Donc, il y a ça, aussi l'apprentissage d'une nouvelle technologie, mais qui est peut-être un peu plus simple parce qu'on est toujours au bout de notre
Exactement.
Téléphone, de notre tablette, peut-être plus maintenant que d'un crayon.
Oui. Alors, on a juste transféré les données que les gens écrivaient sur la feuille dans leur téléphone.
Alors, qu'est-ce qu'ils doivent inscrire?
Ils l'inscrivent dans l'application. Ils peuvent inscrire, ils inscrivent leur poids, la quantité de liquide qu'ils boivent dans une journée, puis la pression artérielle. Puis ces données-là sont envoyées directement à la clinique d'insuffisance cardiaque où je suis. Donc, ça me permet de voir en temps réel les données que le patient rentre. Puis si le patient entre des données qui sont considérées alarmantes pour lui, bien, à ce moment-là, on peut rentrer en communication ensemble. Entrer en communication ensemble, ce n'est pas nécessairement par le téléphone. On peut le faire par texto, comme on dit.
Oui.
Ça me permet même de le voir en temps réel parce qu'il y a un système de visioconférence où je peux voir le patient de sa tablette ou de son téléphone.
Ouais. Même si on n'est qu'à la phase test de hacker, Stéphanie Béchard, êtes-vous déjà... capable d'appréhender ou du moins de pouvoir constater tous les avantages que ça pourra avoir. Il y a ces suivis-là que l'on comprend beaucoup plus étroits, mais en matière de santé, puis en matière de coûts aussi, est-ce
ouais.
que vous avez pu constater quelque chose?
Bien, l'hypothèse, parce qu'en fait, on va évaluer le projet Hacker via un protocole de recherche, puis notre hypothèse, c'est que d'utiliser cette technologie-là va nous permettre de diminuer les hospitalisations parce qu'on va pouvoir intervenir plus précocement quand le patient va décompenser, puis on pense que le patient va être plus adhérent au suivi. Donc, l'objectif est de diminuer les hospitalisations. Si on diminue les hospitalisations, pour le patient, ça augmente sa qualité de vie. Puis, pour le système de santé, ben on sauve des coûts, bien entendu.
Et vous ne vivrez plus, à moyen-long terme, là, on le comprend, avec « Ah, j'ai oublié ma feuille. Ah, telle journée, j'ai oublié de l'inscrire. Ah, ça, je suis pas sûre, je comprends pas trop ce que j'ai écrit. » Donc, évidemment, du point de vue de la santé, il y a de nombreux bénéfices. On parlait tout à l'heure là que les gens qui vivent avec de l'insuffisance cardiaque, c'est pas banal. C'est quand même, bon, moi, dans mes chiffres, là, plus de 600 000 personnes au Canada.
Exactement.
Hommes, femmes, à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un profil type, Stéphanie Béchard?
On sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont insuffisants cardiaques. Puis je vous dirais que la moyenne d'âge dans ma clinique d'insuffisance cardiaque est autour de 70 ans.
Ah oui, quand même. Est-ce que cette clientèle, j'imagine parce que l'idée vous est venue de cette façon-là, mais pour être un petit peu plus réticente à utiliser la technologie pour mesurer leur santé?
C'était une question que je devais répondre avant de faire, d'émettre cette idée-là, effectivement. Mais oui, les gens utilisent dans cette catégorie d'âge-là la technologie. Puis même, anecdote, on a une patiente de 89 ans.
Ah oui.
Puis là, je m'étais dit, je vais pas lui présenter l'application parce que c'est sûr qu'elle n'utilise pas ça. Puis finalement, je la questionne quand même. Puis elle me dit, oui, moi, j'ai une tablette. Puis je fais Skype avec mes enfants qui sont en Espagne. Puis je leur envoie des courriels. Puis je me dis, c'est juste ça que ça prenait. Cette dame-là va pouvoir, même à 89 ans, utiliser l'application.
Et c'est formidable parce que tout ce contact avec la technologie garde aussi les personnes plus âgées dans ce bassin d'effervescence parce qu'on sait, la technologie, en ce moment, tout le monde en mange, tout le monde en parle. C'est une façon aussi de continuer le discours avec les enfants et les petits-enfants aussi, de dire, regarde, moi aussi, je sais comment fonctionne, j'ai une application pour ma santé, pour la santé de mon cœur et tout ça. Fast test, on le saisit bien. Qu'est-ce qui s'en vient pour à rebasse cœur ou à cœur là, dans les prochains mois. J'imagine qu'il y a le désir que l'application devienne là, plus établie, Stéphanie.
Oui, effectivement. Les prochaines étapes sont, il faut qu'on utilise un protocole de recherche pour évaluer l'efficacité d'ACœur, qui va être une phase non négligeable pour avoir des bons indicateurs si on veut le développer à plus grande échelle par la suite. Alors, il faut s'assurer que les gens vont l'utiliser, il faut s'assurer que ça va avoir des bénéfices pour nos patients.
Oui. Et maintenant, en terminant, on va parler un petit peu de Coopératon 2016 quand même, qui est un concours que moi, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'était la première édition?
Avant, ça, il y a eu le hackathon. Hackathon qui était en fait un marathon, mais dans une fin de semaine. Maintenant, le Coopératon, en fait, c'est imaginé et conçu par Hacking Hell et le Desjardins Lab. Puis comme le nom le dit, ça se veut un marathon de coopération. Ça mise sur la coopération interdisciplinaire pour stimuler les échanges et la création de solutions innovantes pour améliorer le bien-être collectif.
Ouais. Donc, vous, en tant qu'infirmière, praticienne spécialisée en cardiologie, vous avez été amenée à collaborer avec qui dans le cadre du Coopératon? Bon, on comprend qu'il y avait sûrement des développeurs web ou de logiciels là, qui ont travaillé avec vous. Vous n'êtes pas toute seule dans cette équipe-là?
Non, effectivement, ACœur n'aurait pas vu le jour, puis on n'aurait jamais pu gagner le prix si je n'avais pas eu les gens ils m'ont fait confiance et se sont dit « ce projet-là est gagnant ». Je pense qu'on devrait s'affilier avec eux. Donc, je pourrais peut-être prendre le temps de les nommer.
Bien sûr, c'est le temps.
On avait un développeur, un architecte informatique, un designer, un étudiant en recherche au doctorat. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement dévoués, qui se sont dit, j'ai envie de mettre du temps pour amener l'innovation, pour améliorer le suivi des patients insuffisants cardiaques. Donc, j'aimerais souligner le travail de Younes, Kotara, Olivier, Karl et mes collègues aussi cliniciens, là, Nathalie Nadon et le docteur François Tourny.
Oui, voilà. Et c'est aussi, je pense, une très belle vitrine pour le CHUM. Ils doivent être assez contents de vous et que vous soyez dans l'équipe. en tout cas, vous partez pour les fêtes avec une belle réussite, Stéphanie Béchard. Bien sûr, salutations à toute votre équipe parce qu'on comprend bien que ACœur est né d'une très, très belle collaboration, puis on suivra de près l'évolution de cette application pour les gens qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Merci, Stéphanie Béchamp.
Merci.
Dernier segment de cette émission, c'est bon pour la santé, qui est peut-être mon préféré parce que c'est dans ce segment que je vous livre un petit coup de cœur de la semaine. Et aujourd'hui, je fais un petit peu du pouce sur cette discussion que j'ai pu avoir tout à l'heure avec le journaliste Pierre Craig qui nous parlait de son trouble panique qu'il a révélé publiquement il y a de ça quelques semaines. Il vit, Pierre Craig, avec ce trouble-là depuis plusieurs années. Ce qu'on n'a peut-être pas dit dans le cadre de cette discussion-là, c'est que c'est pas banal, le trouble panique, mais aussi tout ce qui est rattaché, c'est-à-dire tout ce qui est lié au trouble d'anxiété, à l'angoisse aussi. Il y a beaucoup de gens au Québec et au Canada qui vivent avec ces troubles-là. D'ailleurs, l'organisme Revive, là, revive.org, peut aider les gens qui vivent avec ce genre de problèmes de santé mentale. Et je vous parle aujourd'hui d'un bouquin extrêmement rigolo, qui fait du bien, qui démystifie peut-être aussi l'angoisse et l'anxiété. C'est un livre qui est sorti en 2014 de Catherine Lepage, qui est auteure et illustratrice. Ça s'appelle « Fines tranches d'angoisse ». 120 quelques pages, mais ça se lit en 15 minutes parce que, on y va d'illustrations extrêmement humoristiques, extrêmement rigolotes et aussi de petites phrases toute simple, vraiment humaine, qui, bon, comme je le disais, font du bien, mais permet de relativiser un petit peu notre douleur, notre peine, notre angoisse et notre anxiété, en se disant qu'au fond, ben, on est humain. On est simplement humain et qu'il y a des moyens de s'aider et qu'il y a des façons aussi de rire de nous-mêmes. Et c'est pas banal parce que, bon, Catherine Lepage, elle est pas médecin, elle est pas psychologue, elle est auteure et illustratrice, mais elle a vécu des épisodes dépressifs. Elle vit avec l'anxiété et l'angoisse et elle a eu envie de se révéler et d'en parler. Le bouquin commence avec cette première question. Êtes-vous angoissée? Et là, bien sûr, on se pose la question et après, ben, elle dit, ben, moi, oui, c'est cyclique, ça va par phase, parfois oui, parfois non. Elle décrit ce qu'elle vit. Des fois, je suis paralysée. Bon, on voit des images du cerveau, mais tout ça est assez humoristique, un peu enfantin aussi. Mais ça nous amène un peu à, je dirais, introspection, à l'introspection. Donc, à aller en nous-mêmes, à se poser des questions à nous, comment on vit l'angoisse, comment on vit l'anxiété. Et bien sûr, ben, parfois un peu à rire de nous-mêmes, avec notamment le chapitre 3, où elle dit quatre phrases cucu bonnes à retenir. Comme par exemple, la vie, c'est comme les bikinis. Parfois, il y a des hauts et parfois, il y a des bas et ça ne peut pas toujours bien aller. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse aussi pour la période des fêtes. Je vous souhaite, comme je vous le disais en ouverture, du repos, des beaux dodos, mais surtout du bon temps avec ceux que vous aimez. La période des fêtes, c'est fait pour ça. On a 10 jours, 2 semaines pour en profiter. Jean-Sébastien de la Liberté, Christiane Campagnan, Martin Fort, qui font partie de mon équipe. Je vous salue, je vous remercie. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Allez dehors. Des belles joues roses. C'est beau. Je vous embrasse. Bye.